Kiosque Magazine.
Jeudi 4 décembre, 21 dodo avant Noël. Je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas encore sorti dehors, ça caille, le soleil est menteur ce matin. Difficile de croire que 2014 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée dans les annales météorologiques. Ou du moins, si c'est ce qu'il y a de plus chaud, c'est où? On s'attend au réchauffement de la planète à quelle heure? Ceci dit, on ne vous parlera pas de météo ce matin, on va vous parler d'économie d'emploi comme tous les jeudis. Et quand je dis on, évidemment, c'est Éric de Belval et moi-même, François Brodeur. Éric, bonjour.
Bonjour, François.
Qu'avez-vous prévu ce matin?
Ben, je ne sais pas si l'année sera la plus froide. Peut-être que l'année sera la moins coûteuse en termes de pétrole. Et à qui profite la baisse des cours du pétrole, au fait, hein? On commence à l'appeler un peu vite le contre-choc pétrolier. Et certains experts envisagent une baisse du prix du baril à 40 $. Rappelons qu'il tourne autour de 70 aujourd'hui. Bon, enfin, on sait ce que valent les prédictions en économie. En tout cas, les conséquences ne sont pas identiques des deux côtés de l'Atlantique. Selon que vous produisez du gaz de schiste ou que vous importez votre énergie en quasi-totalité, la situation n'est pas la même, on en parlera. Et puis on parlera d'investissement. Il est toujours utile de prendre le contre-pied des opinions en vogue, des théories qui font l'unanimité et autres pensées politiquement ou économiquement correctes. Et même sans se prendre pour Galilée, certaines opinions critiques ou contraires peuvent légitimement retenir notre attention et modifier notre jugement. C'est le cas en matière d'investissement qu'il ne faut pas opposer aux économies. Et on va voir un article très intéressant sur le sujet. Et puis pour finir, vous l'avez dit, plus que 21 jours avant Noël, je sais que vous allez vous gaver de chocolat, moi aussi. Tout le monde connaît la blague qui veut que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat la dixième ment. Eh bien, faudra-t-il prochainement renoncer à la raconter à cause d'une pénurie, voire d'une quasi-disparition du chocolat? Voilà de quoi assombrir l'éclat des fêtes dans quelques années. Alors, ce risque existe-t-il? Pour quelles raisons? La question de la pénurie est toujours un excellent point d'appui pour faire de la prospective économie. Que le produit n'y change pas grand-chose, c'est toujours la gestion des hommes qui est en cause.
Et de mon côté, vous parliez d'économie tout à l'heure, on va parler de revenus de retraite, plus particulièrement de l'utilisation d'une résidence pour financer sa retraite, ce qui est de plus en plus le cas, ce qui tend à prouver que les biens patrimoniaux, c'est-à-dire les biens qu'on se transfère d'une génération à l'autre, eh bien au Québec, c'est une vue de l'esprit plus qu'autre chose. Également, les pays pauvres vont-ils être moins pauvres après les objectifs millénaires? Il y avait des objectifs, je vous rappelle, au tournant de l'arrivée du millénaire, objectifs qui fixaient la disparition de la pauvreté absolue. On va voir où on est rendu. Mais d'abord et avant tout, José Blanchette parle d'économie. Et un des bonheurs quand on est animateur à Vues et Voix, c'est de lire du José Blanchette de temps à autre. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir et je vais vous parler d'austérité comme on l'a fait la semaine dernière et comme on le fera probablement la semaine prochaine encore. Alors, tout ça dans quelques instants. José Blanchette, donc, qui se penche sur la notion d'austérité, et vous allez voir le titre de son article dit tout. Ça a été publié dans Le Devoir du 28 novembre 2014. Vendredi noir en austérie, l'austérité pour les nuls. Le mois des morts se termine et je n'ai que l'austérité à l'esprit. La mort est peut-être un rien austère aussi. Du moins, elle fait dans les services essentiels non subventionnés. On quitte la scène nue comme un ver en laissant ses dettes derrière, nos restes mortels n'intéressant plus que les cimetières. Le trépassé est un citoyen modèle en période d'austérité. Il ne manifeste pas, ne proteste jamais, sa tête d'enterrement est pleinement justifiée, il ne coûte rien, s'adresse au privé et réussit à consommer encore post-mortem, préarrangement ou pas, avec sandwich pas de croûte. Tu ne peux pas te serrer la ceinture plus que lui. Nous ferons de bons citoyens. Le death boom s'en vient. En attendant, j'étais plutôt rassuré par l'idée d'austérité. Je la confondais avec la simplicité volontaire, me disant qu'il était temps qu'on applique une logique chirurgicale pour laisser des finances saines à nos enfants. Vous connaissez le refrain judéo-chrétien « un rien doloriste ». Si ça ne fait pas mal, c'est que ça ne guérit pas. Après avoir lu le magazine Liberté qui consacre son dernier numéro à l'austérité, je saisis que nous sommes passés de la chirurgie à la chimiothérapie. On nous administre un remède de cheval pour notre bien, quitte à ce que nous en mourions, pour le mieux-être de toujours les mêmes. Le sociologue Éric Pinault se déchaîne sur l'idéologie austérienne dans Liberté. Il ne faut surtout pas penser qu'il est question d'un mauvais moment à passer, d'une simple traversée du désert, ou qu'on doive tout simplement se serrer la ceinture le temps d'atteindre un fantomatique équilibre budgétaire. Non! L'austérité est un levier de transformation sociale, écrit-il dans Bienvenue en austérie. Selon lui, cette idéologie ne vise rien de moins qu'une révolution conservatrice permanente. J'ai vérifié auprès de mon économiste de mari. Il n'était pas au fait que l'austérité est un courant idéologique. Porter des bas bleus peut être une idéologie politique aussi. Et les théories du complot lui donnent de l'urticaire avancée. N'empêche, monsieur le mari, tu ne trouves pas qu'on joue avec les allumettes? Oui, il trouve. Ça fait des mois qu'il me prévient que ça va trop vite, trop loin, qu'on coupe trop partout et que la classe moyenne va descendre dans la rue. C'est demain la rue, je le rappelle. Demain, évidemment, signifiant ici la manifestation qui a eu lieu la semaine dernière, au début de semaine. À la maison, nous parlons d'austérité. L'économiste Pierre Fortin a même tiré sur l'alarme vendredi dernier à RDI Économie. Le Québec risque de basculer en récession d'ici 2 ans à cause des politiques d'austérité, aussi appelées plus sobrement rigueur budgétaire ou consolidation. Rappelons ici que l'austérité appliquée un peu partout en Europe a été condamnée par le FMI, qui l'avait d'abord préconisée, comme méthode de correction économique. Loin d'atteindre les cibles souhaitées, l'austérité nuit à la relance économique et foutrait tout le monde dans le pétrin. Moins de jobs, moins d'argent, moins d'argent, moins de consommation, moins de jobs et rebelote. J'oubliais moins d'État, plus de privé. On pourrait penser que ça s'arrête là. Eh bien non. L'austérité tue. Mais il n'existe pas de cimetière pour aller pleurer les dommages collatéraux du déficit zéro. Selon les auteurs David Strockler et Sanjay Basu, deux chercheurs en santé publique, l'un à Oxford en Angleterre, l'autre à Stanford en Californie, l'austérité augmenterait l'alcoolisme, le nombre d'épidémies de dépression et de suicides. Les deux auteurs de « Quand l'austérité tue », paru en 2013 sous le titre « The Body Economic, Why Austerity Kills », se sont penchés sur des études de santé publique étalées sur 10 ans, comparant notamment l'Islande, une des plus grandes catastrophes bancaires en 2008, et un système de santé financé par l'État comme le nôtre, avec la Grèce. L'Islande n'a pas connu de hausse de mortalité durant ce qu'on appelle la Grande Récession, en partie parce qu'elle a mis en prison les banquiers néo-vikings et maintenu ses programmes d'aide sociale. La Grèce, elle, avec l'austérité, a vu le taux de VIH augmenter de 200%, le nombre de suicides doublé, le retour de la malaria, une tragédie grecque. Bon, il y a une relation de cause à effet un peu étirée ici, mais... Les auteurs nous rappellent que plus de 10 000 Islandais sont descendus dans la rue armés de leurs casseroles et ont déclenché des émeutes en 2009. 3% de la population, l'équivalent de 10 millions de personnes aux États-Unis ou de 250 000 personnes au Québec, a eu raison du gouvernement en place, des coupes et des banquiers. Dimanche dernier, j'assistais à un panel au Salon du Livre de Montréal. Mon économiste de mari, le journaliste Gérald de Filion, l'économiste Yannick Marcil et le chercheur Alexandre Sheldon, qui a participé au livre primé par le prix Pierre Vadeboncœur, Paradis fiscaux, la filière canadienne d'Alain Deneau, et discutait d'austérité de paradis fiscaux. J'ai pris quelques notes dans mon calepin lorsqu'il a été question de trouver l'argent pour atteindre le déficit zéro. De 81 à aujourd'hui, l'impôt des entreprises est passé de 38 à 15. On assiste à une augmentation constante des paradis fiscaux de 1500% depuis 20 ans. C'est désormais la norme. Au Canada, cela représente 50% des transactions, soit 170 milliards de dollars en 2013. Vu l'opacité des dites transactions et la dématérialisation technologique, on peut soupçonner que ce montant s'avère très conservateur. Mais selon des calculs de Napkin sur un coin de la table, en taxant les paradis fiscaux au Québec, on comblerait le déficit annuel. Les panélistes ont tous convenu en soupirant qu'il faudrait une volonté politique pour les éliminer. Rappelons que M. Couillard a placé des fonds dans l'île de Jersey lorsqu'il travaillait en Arabie saoudite. Question. Quel est le seul parti aux dernières élections qui parlait de paradis fiscaux et dénonçait l'austérité pour valoriser la solidarité? Il a réussi à faire élire 3 députés seulement. C'est David contre Goliath. Sur ce, je vous laisse. Allez profiter de ce vendredi noir dans les magasins. Ne ratez pas les soldes sur les casseroles. Et ceci dit, personnellement, je crois que je vais devenir accordeur de Lagostina.
Alors, ah, cher pétrole, comme tes fluctuations de prix ressemblent au cœur de notre planète folle. un peu trop vite ou un peu trop fort, et c'est toute l'économie qui tombe malade, ou bien retrouve la forme. Alors les choses se compliquent, hein, dès qu'on se déplace, fût des États-Unis, d'Europe ou du Canada, le bon rythme cardiaque n'est pas tout à fait homogène. Ça a intéressé Laurent Fabius dans un article du Monde qui s'appelle « Le contre-choc pétrolier arrive à point nommé ». Cet article a été repris dans Le Devoir. Est-ce aux portes de l'enfer, de la récession et de la déflation que la zone euro va rencontrer les circonstances qui lui permettront de sortir enfin d'une si longue crise ? Aujourd'hui, la zone euro n'est plus seulement la victime collatérale des désordres du monde, elle en est devenue l'épicentre. Elle n'est plus seulement malade de sa périphérie, c'est son cœur qui flanche. En Allemagne, le produit intérieur brut stagne depuis un semestre. En France, la croissance patine. L'Italie continue de s'enfoncer, l'Espagne s'extrait péniblement du gouffre. La croissance de la zone ne devrait pas dépasser 0,7% en 2014, après deux années successives de recul. Cette crise sans fin sanctionne l'échec des politiques de purge excessive menées sans coordination.
Ce qui nous ramène aux propos précédents.
Exactement. Et au fantôme de Keynes, qu'il faudrait quand même se mettre d'accord pour l'enfermer dans un placard où il ne sortirait plus. La demande intérieure, notamment l'investissement, est en panne. Des tendances plus profondes au sein des pays avancés, repli sur l'épargne, durcissement des politiques d'offres, recentrage des chaînes de valeur, entraînent la décélération du commerce mondial et fragilisent les économies en rattrapage. L'érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes occidentales et la fin de la fuite en avant dans le crédit ne sont plus compensées par l'enrichissement des classes moyennes émergentes. Avec le resserrement des débouchés, les pays avancés sont ainsi entrés en lutte pour gagner des parts de marché et repousser chez le voisin le spectre de la déflation. À ce jeu de surenchère, deux pays ont semblé marquer des points décisifs, les États-Unis et l'Allemagne. Mais en surmontant l'adversité, ils se sont érigés comme modèle de règlement de la crise. Par mimétisme, chaque région du monde a cédé aux stratégies néo-mercantilistes, renforçant le déficit initial de demande mondiale. Or, l'extension du déséquilibre entre l'offre et la demande se referme maintenant sur ces deux pays comme un piège. L'impasse du modèle germanique par épuisement des débouchés est structurelle, médiocrité de la consommation intérieure et de l'investissement, affaiblissement de la demande de la zone euro, érosion de la croissance des pays dits émergents qui avaient fait les beaux jours du miracle allemand. Aveuglé par son objectif de déficit budgétaire zéro pour complaire à un électorat vieillissant, encore enivré par les succès récents d'une politique économique et industrielle triomphante, elle risque de faire basculer l'Europe entière dans une déflation longue en continuant d'imposer une politique combinant austérité intérieure et excédent extérieur. Les États-Unis font désormais cavalier seul, mais l'économie américaine est-elle encore en mesure de prendre en remorque l'économie mondiale et plus spécifiquement la croissance européenne ? Les déclarations finales du dernier G20 à Brisbane ne doivent pas faire illusion sur la probabilité d'une relance internationale. Dans ce monde multipolaire, aucun, pour reprendre les thèmes de l'économiste américain Charles Kindleberg, n'a été jusqu'ici en mesure d'imposer une règle du jeu concertée pour réduire les effets néfastes des surenchères individualistes et stabiliser l'économie mondiale. Et pourtant, il semble bien que, comme maintes fois dans l'histoire, après avoir assuré leur propre sauvetage, les États-Unis soient en train de rendosser ce rôle. Un bricolage coopératif semble en effet se dessiner depuis la conférence des banquiers centraux à Jackson Hole, ça s'est tenu en août dernier. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine paraissent engagées dans une stratégie concertée de dépréciation de l'euro. Dans le même temps, la Banque du Japon a provoqué une nouvelle glissade du yen. Si Janet Yellen, la présidente de la Fed, laisse ainsi filer le dollar à la hausse, c'est d'abord parce qu'elle accorde un certain crédit à la solidité des moteurs de croissance américains, mais aussi parce qu'il est de l'intérêt de Washington d'éviter que la zone euro, soit le quart de l'économie mondiale, ne sombre en déflation. C'est aussi le moment qu'ont choisi les États-Unis pour déverser leur pétrole sur les marchés mondiaux, déclenchant un véritable contre-choc pétrolier, nous y voilà, qui arrive à point nommé pour les entreprises européennes dont les marges sont laminées par la déflation rampante. C'était un peu technique et un peu long, cet exposé de démarrage, mais ça fixe bien les choses. Et on voit bien comment amener la question du pétrole à partir de cette photographie-là.
Ouais, bien comprendre que les Américains ont accepté de laisser monter leur monnaie sur les marchés, alors que tout le monde cherche à les déprécier pour vendre plus de matériel à l'étranger. Alors, les Américains sont prêts, eux, à accepter ça sur le fond de leur exportation de pétrole, finalement.
Voilà, c'est exactement ça. Simultanément, le président de la BCE, Mario Draghi, qui proclamait vouloir sauver l'euro, semble enfin être entendu lorsqu'il appelle les gouvernements européens à venir appuyer sa lutte contre la déflation. Le plan d'investissement Juncker, mais surtout le jeu de poker qui sous-tend le processus de validation des budgets européens, montre que la Commission, derrière une intransigeance de façade et en dépit d'âpres débats internes, n'est plus dans la dénégation du risque. À défaut d'infléchir l'orthodoxie allemande, elle ne contrarie qu'à la marge la neutralité budgétaire de la France et de l'Italie, conditionnement son quitus à quelques réformes structurelles. Au final, à travers la dépréciation consentie de l'euro, la chute organisée des prix du pétrole et le relâchement implicite de la discipline budgétaire, les conditions qui ont permis par le passé à l'économie européenne de se raccrocher à la locomotive américaine sont proches d'être réunies. Seule l'Allemagne répugne encore à assumer les obligations liées à sa puissance et à jouer la partition du leader européen bienveillant. Mais elle devra prendre tôt ou tard conscience de l'essoufflement de son modèle. Il sera peut-être possible alors de reprendre le chemin de la coopération. 70 ans après les accords de Bretton Woods, qui en juillet 1944 ont jeté les bases de la coopération économique et monétaire des 30 ans qui suivraient, la remise en marche de l'économie européenne pourrait à nouveau passer par la mansuétude bien calculée des États-Unis.
Effectivement, c'est l'intérêt américain d'avoir des clients demain et donc des gens qui restent de l'argent et des moyens pour importer du matériel américain. Et c'est vrai de toute l'économie mondiale.
En l'occurrence, c'est de la bonne prospective économique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des gens qui restent sur le bord du chemin. En l'occurrence, dans cette histoire de pétrole, c'est le Venezuela qui paye le prix fort.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais de ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident.
Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais il y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
Mes aïeux dégénérés. Génération, une pièce que j'ai demandé à Rémi Hermoseau, qui assure usuellement les choix musicaux de cette émission et la mise en onde. Donc, je lui ai demandé de vous la passer parce que je trouvais que ça introduisait bien mon prochain texte où il est question de l'endettement des retraités. On va voir qu'il y a de moins en moins de biens patrimoniaux à transmettre aux générations suivantes. Libéré du travail, mais pas des dettes, ça a été publié dans Le Devoir du 2 décembre sous la plume de Gérard Bérubé, donc. Un propriétaire sur cinq prévoit utiliser la valeur de sa maison à la retraite. L'objectif d'atteindre la retraite sans hypothèque tient difficilement. Ils sont toujours plus nombreux à quitter leur vie professionnelle endettés. La valeur de la propriété devra être mise à contribution. Environ un propriétaire sur cinq prévoit utiliser la valeur de sa propriété pour compléter son revenu de retraite, conclut un sondage de la Banque Manuvie du Canada. Les Canadiens parviennent difficilement à réduire leur endettement tandis qu'ils se préparent à la retraite, a souligné l'institution. Le sondage a été réalisé auprès de 2373 répondants en septembre dernier. Près d'un propriétaire de résidence sur cinq considère que la valeur de sa propriété doit être prise en compte dans son revenu de retraite. De plus, 10% des répondants prévoient demeurer dans leur maison et emprunter en donnant cette dernière en garantie, alors que 8% d'entre eux envisagent de vendre leur maison et d'en acheter une plus petite, puis d'utiliser l'excédent de la vente comme revenu de retraite. Pour la banque, il faut y voir un signe de la difficulté à concilier épargne-retraite et remboursement des dettes. Surtout, 81% des répondants souhaitent atteindre l'objectif de rembourser leurs dettes avant la retraite. Dans la réalité, à peine la moitié d'entre eux croient un tel objectif réaliste. Ce sont les répondants âgés de 50 à 59 ans qui ont indiqué le taux de confiance le plus faible à cet égard, suivi de près par ceux âgés de 40 à 49 ans, ajoute l'institution. Et ils sont nombreux à estimer devoir continuer de travailler à plein temps ou à temps partiel jusqu'à ce qu'ils aient remboursé leurs dettes. Des 46% qui prévoient prendre leur retraite au moment prévu, même s'ils sont encore endettés, 26% ont indiqué qu'ils réduiraient leur niveau de vie jusqu'à ce qu'ils aient fini de rembourser leurs dettes et 10% ont indiqué que leurs dettes n'auraient aucune incidence sur leur niveau de vie. Je me demande d'ailleurs comment. En début d'année, les conclusions d'un sondage en ligne mené cette fois par ING Direct faisaient ressortir un retour important des retraités sur le marché du travail. Ainsi, 31% des répondants retraités soulignaient être revenus sur le marché du travail. Ils admettaient avoir sous-estimé le coût de la vie une fois la retraite venue et avoir besoin d'un salaire pour boucler leur budget. En dépit de l'imprécision découlant des sondages en ligne, la dichotomie entre les attentes et la réalité est récurrente. Un autre sondage, mené en août 2013 dernier, mais demeurant d'actualité, est venu illustrer cet écart de perception et a proposé un ordre de grandeur en ce qui a trait à l'ampleur du déséquilibre. Selon les résultats publiés alors par l'Institut Info Patrimoine BMO, les baby boomers ont en moyenne un manque à gagner de plus de 400 000 $ par rapport à leur objectif d'épargne retraite individuelle. Pour combler l'écart, on pouvait y lire que 71% des répondants s'attendaient à occuper un emploi à temps partiel après leur retraite officielle, ou encore que 44% vendront des articles de collection, des antiquités ou d'autres possessions qu'ils n'utilisent plus. 32% s'attendent à vendre leur maison, tandis que 19% en loueront une partie comme source de revenus supplémentaires. Quant à l'endettement, toujours plus grandissant, les dettes continuent à s'accumuler plus rapidement dans le segment des 65 ans et plus. Selon les données de l'agence Equifax depuis la crise de 2008, l'endettement dans ce groupe augmente au rythme annuel moyen, frôlant les 9%, et ça, c'est un chiffre dramatique. Je répète, donc, l'endettement chez les gens de plus de 65 ans augmente au taux de 9% et plus depuis 2008. À l'opposé, le groupe des 26-45 ans présente le taux d'augmentation de la dette le plus faible. Ça, c'est le chiffre le plus sain de nos économies. Et Equifax de conclure que les années dorées que les retraités prévoyaient ne se sont pas concrétisées. Avec des revenus réduits, souvent associés à des dépenses accrues, ces personnes accumulent plus de dettes pour hausser leurs revenus par le truchement du crédit afin de pouvoir continuer de jouir du style de vie pré-retraite qu'ils ne pourront peut-être plus se permettre. C'est greffe une autre réalité. Cette tendance vient aussi traduire une accumulation de dettes par les 65 ans et plus afin d'aider leurs propres enfants adultes ou leurs propres parents qui ont des problèmes financiers.
Alors, quelques brèves. Comme il faut bien signaler les économies, on arrive à Noël. Bah, figurez-vous que si vous possédez un permis de classe 5, c'est le cas de la majorité d'entre nous, la contribution d'assurance passe de 64 à 55$ par année, 9$ en moins. Puis si en plus vous possédez une voiture, la contribution pour le véhicule promenade passe de 120 à 64, une économie de 56, ça veut dire 65$ qui vont rester dans vos poches.
Oui, mais en revanche, je vous rappelle que lors de la mise à jour économique de la semaine dernière, le ministre des Finances a annoncé que le crédit de taxe sur les assurances dommages allait finalement sauter. Donc, on va payer 9 % de taxes. Donc, l'un dans l'autre, Québec va récupérer cet argent-là. Faites-vous-en pas. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Depuis des années, on parle d'accords bilatéraux, les accords de libre-échange un peu partout établis dans le monde. Moi, j'ai grandi à l'époque où il y avait le GATT, pour ceux qui s'en rappellent. C'est le General Agreement on Trade and Tariff. C'est l'accord mondial de commerce qui était multilatéral où tous les pays s'étaient entendus ensemble. Eh bien, il y a un nouvel accord qui est intervenu dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, un consensus entre ses 170 membres pour assouplir les tarifs douaniers. C'est le retour du multilatéralisme en économie? Peut-être.
Ah, mais écoutez, je ne sais pas ce que vaut ce retour, mais celui de la mauvaise gestion est bien clair et le crédit d'impôt pour solidarité a coûté 360 millions de dollars au Trésor public selon le rapport du vérificateur général du Québec. Eh bien, 270 000 personnes ont fait croire à Revenu Québec qu'elles vivaient seules tout en partageant leur logement. Question de profiter du crédit d'impôt. C'est pas joli, ça.
Oui, mais on est toujours seul dans la vie. Tiens, l'Institut de la statistique du Québec qui revient encore cette année avec une donnée intéressante. On a souvent l'impression que les fonctionnaires sont, passez-moi l'expression, gras dur. Eh bien, sachez que les fonctionnaires du gouvernement du Québec sont payés en moyenne 7,6 % moins que les employés du secteur privé, ou là où il y a plus de 200 employés, ou alors que les employés des sociétés publiques et parapubliques comme les municipalités et les universités. Donc, être fonctionnaire au Québec, c'est vraiment pas le pactole.
Bon, j'essaye de retrouver encore une bonne nouvelle. Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut du pays a progressé de 2,8 %, soit beaucoup plus que la croissance de 2,1 % à laquelle s'attendaient les économistes, hein, vous savez, les grands prévisionnistes, qui suivent ces publications régulières. Donc, c'est bien. On espère que ça va continuer comme ça. Et puis, c'est surtout dû aux exportations, hein, qui ont progressé de 6,9 %.
Restez là, bougez pas. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Kiosque Magazine, donc deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on commence en parlant d'investissement parce qu'on a la tentation ces temps-ci d'arrêter d'investir, d'arrêter de dépenser, d'arrêter de penser à l'avenir parce qu'il faut couper et arriver dès l'an prochain au déficit zéro.
C'est peut-être un peu dangereux. Alors, ça a intéressé une dame qui s'appelle Lucie Marcus, qui est analyste dans une société privée et qui s'exprime dans la Tribune. Elle nous invite à réfléchir sur la nécessité de l'investissement. Alors, c'est exactement le contre-pied de ce que vous venez d'évoquer, François. C'est vrai, tout le monde veut faire des économies, équilibrer les budgets. C'est devenu une obsession mondiale. C'est une sorte de contre-keynésianisme qui a sûrement ses justifications, mais aussi ses conséquences, pas toujours prises en compte. Alors, on va voir lesquelles. Et l'article, on a tout de suite compris la couleur, s'intitule « Ne pas négliger l'investissement à long terme ». C'est un grand tort de croire qu'il est possible de couper dans l'investissement public ou privé sans dégâts à long terme. Les investissements publics et privés dans l'économie réelle sont en butte aux critiques depuis la crise financière de 2008. En ces périodes économiques difficiles, il peut sembler logique de réduire les investissements qui ne donnent des résultats qu'à long terme et ainsi économiser de l'argent et des ressources pour résoudre les problèmes à court terme. En fait, réduire les investissements dans notre avenir, aussi bien dans les personnes, la planète, les institutions politiques ou les entreprises, est profondément irrationnel. C'est seulement en investissant dans les idées visionnaires, dans la pensée créative, la recherche et le développement et l'innovation que nous pourrons garantir un avenir meilleur, plus libre, plus pacifique et plus prospère que par le passé. L'éducation de la petite enfance, la médecine préventive, les bibliothèques, l'infrastructure matérielle et la recherche scientifique fondamentale, par exemple, tout cela coûte de l'argent et des études montrent que ces investissements en valent la peine. Mais quand les décideurs ont besoin de réduire les dépenses, les investissements dans ces biens publics sont souvent la première chose qu'ils arrêtent parce que les électeurs n'en voient pas les effets à court terme.
La plupart des dommages sont différés. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que ce type de réduction budgétaire reste politiquement séduisant. Mais les sociétés ne peuvent pas se permettre de telles solutions de facilité. Nous devons commencer à investir dans les personnes dès que possible, dès la naissance. L'accès universel à une alimentation de haute qualité et à la médecine préventive, ainsi qu'à des programmes d'apprentissage pour la petite enfance, sont nécessaires pour fournir des bases solides sur lesquelles les pays du monde entier pourront assurer leur future promotion sociale et leur croissance économique. De même, pour les enfants et les adultes, il existe une valeur réelle dans les bibliothèques publiques, qui sont des espaces de rassemblement laïque et gratuit, qui proposent un accès universel à l'apprentissage et qui offrent de plus en plus souvent un accès aux services numériques. On peut dire la même chose des programmes culturels et des institutions qui stimulent la croissance des sciences et techniques. Ces savoirs sont tout aussi nécessaires pour garantir la possibilité que les citoyens contribuent productivement à leur économie et à leur société. La tentation de réduire les investissements à long terme durant les périodes économiques difficiles hante aussi la sphère privée. Et les entreprises à travers le monde, grandes et petites, y succombent depuis le début de la récession économique mondiale. Comme les entreprises sont obligées de privilégier leurs performances et de réduire leurs effectifs, elles réduisent leurs investissements dans la recherche et le développement, dans le perfectionnement et la formation de leurs employés, dans leurs infrastructures, etc. Pire encore, ces lignes budgétaires sont les dernières à être rétablies lorsque les perspectives économiques s'embellissent. Par exemple, face à la pression de l'investisseur, les compagnies pharmaceutiques ont réduit de manière dramatique leurs activités de recherche, en comptant plutôt sur des stratégies d'acquisition. Le but est d'éliminer les risques par le rachat de firmes qui ont déjà mené à terme les recherches coûteuses de la pensée créative et qui ont développé de nouvelles drogues à l'efficacité prouvée. Évidemment, de telles stratégies ne fonctionneront pas à long terme si personne n'est disposé à investir au premier stade de la recherche dans des secteurs critiques comme la biotechnologie, la technologie numérique, les sources d'énergie renouvelable, entre autres. Avec des investisseurs rares au premier stade, avec des pouvoirs publics qui se détournent de la pensée scientifique créative, avec des bailleurs de fonds de la recherche universitaire qui exigent que leurs bénéficiaires montrent l'impact de leurs travaux, qui va financer la prise de risque? Si personne ne le fait, la source se tarira et il n'y aura plus rien à acquérir. De même, plutôt que d'investir dans de nouvelles infrastructures, les entreprises rafistolent les anciennes. Mais rafistoler des choses cassées ne dure qu'un temps. En ne consacrant pas les ressources nécessaires pour investir dans des opérations nouvelles, rentables et respectueuses de l'environnement, ou en ne développant pas les compétences et les connaissances des employés ni l'innovation, les entreprises trouveront que leurs économies à court terme se font aux dépens de leur succès à long terme. Les choix que font les entreprises portent non seulement atteinte à leur propre activité, mais ont aussi de profondes conséquences sur leurs clients, leurs fournisseurs et les sociétés dans lesquelles elles sont intégrées. La capacité à investir dans l'avenir affectera cet avenir pour tout le monde. Seulement une partie de ce qui est utile a un effet positif immédiat sur les performances économiques ou peut être soigneusement mis dans une case. Si les décisions d'investissement public et privé ne sont motivées que par les critères de ce qui est facilement mesurable et facilement définissable, nous passerons à côté de découvertes capitales qui sont le lot de tant de résiliation et de progrès humains. Dans le secteur public, tout comme dans le secteur privé, nous devons nous engager dans des investissements à long terme, aussi bien en faveur des enfants et de l'éducation, de la science et de la technologie, de la santé et de la médecine, mais aussi en créant des institutions fortes qui pourront servir de fondement durable à des sociétés pacifiques, démocratiques et prospères. Un investissement dans notre avenir n'est jamais perdu. Investir dans les débuts est la seule chance que nous ayons de vivre pour assister à des dénouements heureux. Alors vous allez me dire, c'est des généralités, c'est un survol macroéconomique un peu large, mais je crois que c'est fondamental.
Ce sont des choses qu'on a oubliées. Moi, ça me faisait penser les années 60, John Kennedy qui décide que les États-Unis vont poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. On ne dira jamais assez ce que cet investissement-là a apporté à la société américaine en termes de réseaux universitaires, de recherche, de brevets, de développement économique. Ça a été colossal parce qu'on y a cru, parce qu'on a investi. Mais vous me direz, c'était une autre époque, l'époque de l'Amérique triomphante et riche. Alors, je vous parlais de l'Amérique triomphante et riche, je vais maintenant vous parler de l'autre partie du monde, celle qui est pauvre. En fait, je vous parle des objectifs du millénaire et plus particulièrement de où on en est dans la lutte à la pauvreté extrême. Un texte de l'agence France Presse paru dans Le Devoir du 28 novembre. La plupart des pays les plus pauvres resteront pauvres, prévient l'ONU. C'est assez déprimant comme ça, je suis désolé. Vous allez voir que c'est quand même pas si mal. Malgré une croissance vigoureuse, la plupart des 48 pays les plus pauvres n'arriveront pas à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, souligne un rapport de l'ONU publié jeudi à Genève. Seul le Laos semble en bonne voie pour atteindre la totalité des 7 points des objectifs millénaires de développement et 4 autres pays, l'Éthiopie, le Malawi, le Rwanda et l'Ouganda, devraient atteindre la plupart des objectifs selon le rapport annuel de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Les objectifs du millénaire définis en 2000 par les Nations Unies visent à réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim dans le monde d'ici à la fin de 2015. Entre 2002 et 2008, la croissance des PMA, les pays les moins avancés, a été supérieure à l'objectif de 7 % décidé par la communauté internationale. Et même après la crise financière de 2008, ces pays ont connu une croissance plus rapide que d'autres pays en développement avec un taux moyen de 5,7 par an, a déclaré Mukisa Kitui, directeur général de la CNUSED à la presse. Il a cependant regretté que ces pays n'arrivent paradoxalement pas à réduire considérablement leur taux de pauvreté. Dans le cadre des objectifs du millénaire, la pauvreté a été réduite de moitié dans le monde grâce à des progrès rapides réalisés dans les pays en développement les plus avancés, et non aux pays les moins avancés. En moyenne, dans les pays les moins avancés, la pauvreté extrême, c'est un revenu inférieur à 1,25 $ américain par jour, a reculé de 65 % en 1990 à 45 % en 2010. Mais ce chiffre reflète de nombreuses disparités. Les pays moins avancés asiatiques ont ainsi progressé bien plus rapidement sur ce point, de 65 à 35 % que les pays moins avancés africains et Haïti, qui eux sont passés de 65 à 51 %, ce qui leur permettra, dans l'ensemble, d'atteindre les objectifs de réduction de moitié de la pauvreté, selon le rapport. Ce dernier préconise 3 axes de développement pour les pays les moins avancés. Favoriser les investissements, notamment dans les infrastructures, on revient à ce qu'on disait. Mettre en place une politique industrielle plus conquérante pour accroître la productivité de certains secteurs, comme l'agriculture, et user du levier macroéconomique pour augmenter la demande interne. En favorisant la réallocation des emplois vers des activités plus productives, telles que l'industrie manufacturière et les services de haute valeur ajoutée, les pays les moins avancés s'approcheront des objectifs du millénaire, selon le rapport. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner l'agriculture, un pilier central du produit intérieur brut des pays les moins avancés, mais davantage se spécialiser, a précisé Taferé Tefsfachou, chef du programme des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Ils peuvent prendre l'exemple du Chili, qui depuis quelques années s'est spécialisé dans la production viticole. C'est devenu une activité plus moderne avec une plus grande valeur ajoutée, a-t-il affirmé. Peut-être qu'il pourrait faire plus de cacao aussi, on va voir tout à l'heure que ça serait pertinent. La liste des pays les moins avancés est réévaluée tous les 3 ans. À ce jour, 4 pays seulement sont sortis de cette liste. Le Botswana en 1994, le Cap-Vert en 2007, les Maldives en 2011 et les Samoa en 2013. Elle tient compte de 3 critères principaux. Le revenu par habitant, avec un seuil de 1 190 $ américains pour en être retiré. Le capital humain, constitué de critères basés sur la nutrition, la santé, la scolarisation ou encore l'alphabétisation de la population. Et enfin, le critère de vulnérabilité économique, qui prend compte des catastrophes naturelles ou de l'instabilité économique internationale. On le voit, bon, ça n'avance pas aussi vite, peut-être qu'on ne réussira pas à atteindre les objectifs du millénaire, mais je note quand même qu'il y a des millions de personnes de moins qui sont dans l'extrême pauvreté, et ça, c'est un plus. Par contre, et c'est le défaut de la chose, ces personnes-là se retrouvent le plus souvent, non pas dans les pays les plus pauvres, mais dans les pays qui sont émergents et donc accèdent à une nouvelle classe sociale. C'est un progrès, c'est pas encore parfait, mais on y travaille.
Pronto me voy a escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar, tú me estás dando mala vida, cada día se la trae a mi corazón, dime tú por qué te trato yo tan bien, cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía. Mi corazón me está sufriendo, gitana mía, por favor, sufriendo mal.
la voix chaude d'Elisabeth Ruiz qui chantait « Mal la vida ». Écoutez, il nous préserve de la déprime, de la maigreur, du cancer et de la guerre. De quoi parle-je? Je parle du chocolat. Et ça, c'est un acquis qui est en péril, Eric.
Mais oui, c'est dramatique. Et François, si on annonce la pénurie de céréales ou de pétrole, bon d'accord, nos estomacs se nouent, nos esprits s'affolent. Et si on parle de pénurie de chocolat, on peut le regretter, mais on ne se sent pas atteint dans ses besoins vitaux. Encore que, j'hésite à finalement accepter cette définition. Pourtant. Alors, redevenons sérieux. Eh bien, cette pénurie de chocolat, c'est une excellente occasion de constater que le problème, ce n'est pas le chocolat, mais c'est les raisons et le mécanisme de la pénurie. Alors, ça a intéressé Jean-Simon Gagné dans Le Soleil du 29 novembre. Une pénurie de chocolat, au début, on croyait à une blague. Pourtant, si la tendance se maintient, le monde pourrait manquer de cacao dès 2020. La faute aux maladies, à la pauvreté, à la mondialisation, au réchauffement du climat et même à la gourmandise planétaire. Chocolique du monde entier, réveillez-vous, le compte à rebours est peut-être commencé. Dans 20 ans, le vrai chocolat ressemblera au caviar. Il sera devenu si rare et si cher que monsieur tout le monde ne pourra plus l'acheter.
Scandaleux. Hein? Inacceptable.
Inacceptable. Déjà qu'on trouve à peine du caviar chez Métro, si en plus ça vient au chocolat, écoutez, c'est pas possible. En 2010, cette prophétie du patron d'une organisation humanitaire a fait le tour du globe. Il n'en fallait pas plus pour semer la terreur sur la planète chocolat. Selon les plus pessimistes, le déficit mondial en cacao pourrait atteindre 1 million de tonnes en 2020, 2 millions en 2030, 3 millions en 2040, et ainsi de suite. Un célèbre chocolatier londonien, Marc de Marquette, prédit déjà une tablette de chocolat à $15.
Oh.
Du calme. Pour l'instant, le déficit mondial de chocolat n'apparaît pas encore insurmontable, et la consommation de chocolat en Chine demeure encore modeste. À preuve, les Suisses mangent en moyenne 100 fois plus de chocolat que les Chinois. À la blague, les sondeurs disent que 9 personnes sur 10 déclarent spontanément qu'elles aiment le chocolat et ils ajoutent que la dixième ment, c'est la plaisanterie classique. Mmh. Pendant longtemps, la boutade a paru très exagérée. Un peu moins maintenant, dès lors que le chocolat ou ses substituts se trouvent dans un nombre stupéfiant de produits. L'an dernier, aux États-Unis, 40% des marques de céréales contenaient du chocolat. Au Japon, on le mélange allègrement avec du wasabi, parfois surnommé la moutarde japonaise. Alors, je ne vais sûrement pas essayer ça. Hein. En Chine, même la commercialisation de chips au chocolat n'a pas suffi à dégoûter à jamais les consommateurs. Chips et croustilles, qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà, croustilles au chocolat.
Je fais des progrès. Mm-hmm. Hein. Bon. Plus sérieusement, il semble que la production de cacao affronte une tempête parfaite, comme disent les anglophones. Mais quand on y regarde de près, on constate que les grands du chocolat ont contribué à leur propre malheur. Au risque d'être accusé de cabotinage, il faut constater que le cacao est à l'agriculture mondiale, ce que le pont de Québec est au transport québécois. Une gloire du passé, longtemps négligée, dont la détérioration lente attire périodiquement l'attention. On aurait pu prendre une autre métaphore que cette histoire du pont de Québec, parce qu'en ce moment, c'est un peu touchy. Mais il y en a d'autres, hein, par exemple, être à la sculpture, ce que le bonhomme Michelin... Dans une entrevue au quotidien français, Les Échos, le président de la Fondation mondiale du cacao, qui s'appelle Barry Parkin, résume la situation. Depuis les années 30, le rendement moyen d'un champ de maïs est passé de 500 kg à 3 tonnes à l'hectare. Dans le cacao, on est bloqué à 400 kg depuis 80 ans. Deux pays africains, la Côte d'Ivoire et le Ghana, produisent plus de 55% de la production mondiale. Pourtant, dans ce berceau du chocolat, la culture du caoutchouc rapporte désormais 4 ou 5 fois plus que celle du cacao. Résultat, des milliers d'agriculteurs arrachent leurs cacaoyers pour planter des arbres à caoutchouc.
Vous êtes en train de me dire que pour avoir des pneus sous les autobus, les métros, les voitures, on est prêt à renoncer au caoutchouc?
Mais non, je suis en train de vous dire
que
au lieu de cultiver du cannabis en secret, il vaudrait mieux faire du cacao, ça va être plus rentable. Et puis ça sera mieux pour la santé. Pour les quelques 5 millions de petits cultivateurs responsables de 90% de la production mondiale, le cacao rime souvent avec pauvreté. En moyenne, selon Oxfam, ceux-là ne reçoivent que 3% sur le prix de vente d'une tablette de chocolat. Souvent, ils gagnent aussi peu que 80 sous par jour. Bref, ils ne profitent guère de l'explosion des prix. Même le climat semble vouloir en découdre avec le chocolat. Selon le Centre international d'agriculture tropicale, les zones privilégiées du cacao seront durement touchées par un éventuel réchauffement climatique d'ici 2050. Il est question de chaleur plus intense et de périodes de sécheresse plus longues. Rien de rassurant quand on sait à quel point le cacaoyer constitue un arbre capricieux. Mais tout n'est pas complètement noir sur la planète chocolat. On appréciera le jeu de mots. L'industrie a fini par sortir un peu de sa torpeur. En mai, les 12 plus grands groupes du monde se sont réunis pour former Cocoa Action. Ils proposent tout à la fois de lutter contre les maladies, d'augmenter la production et d'améliorer les conditions de vie des petits cultivateurs. Un chantier immense. Mais ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais. Un peu partout, la science est appelée à la rescousse. En Afrique, des agronomes vantent les prouesses de nouvelles lignées de super cacaoyers capables de produire 7 fois plus de cacao. Seule ombre au tableau, il semble que les fruits n'ont pas toujours la saveur désirée, au point où certains craignent que le chocolat perde son âme. L'industrie fait de grands efforts pour faire du chocolat un produit abondant et accessible, analyse Mark Schaxer, un analyste de l'agence Bloomberg. Le danger en faisant cela, c'est qu'on rende le chocolat aussi fade et insipide que les fraises vendues en épicerie durant l'hiver. J'espère que ce ne sera pas le cas du caviar. Les mauvaises langues ajouteront que votre oncle Hector ne fera peut-être pas la différence entre le chocolat du futur et celui d'aujourd'hui. Pourquoi il insulte mon oncle Hector, celui-là ? Mais comme monsieur a déjà confondu le combustible du brûleur à fondu avec sa tequila, est-ce vraiment une référence ? En attendant la suite, le mot de la fin appartient à l'humoriste américaine Sandra Boynton pour sa déclaration d'amour au chocolat authentique. Le fruit du caroubier donne une poudre brunâtre que plusieurs considèrent comme un substitut adéquat pour le chocolat, sous prétexte qu'il contient du calcium et du phosphore, disait-elle. Ces gens nous disent aussi qu'en mélangeant cette poudre avec du gras végétal et du sucre, on finit par produire un produit ayant la consistance et la couleur du chocolat. Mais quand on y pense, on peut faire la même démonstration avec n'importe quel type de poussière, y compris avec les minous que les courants d'air font balader en dessous de votre lit.
Excusez-moi d'être sceptique, mais ce que je retiens de votre texte, c'est que le producteur actuellement touche 3% de la valeur du chocolat et 12 multinationales vont régler le problème? Non. J'ai des doutes. Je vais vous révéler ici une de mes angoisses les plus profondes. Je suis juriste, voyez-vous. Je peux lire la loi de l'impôt, comprendre la Constitution, dépatouiller le Code pénal. Par contre, quand je me retrouve devant la signalisation de stationnement à Montréal, j'ai souvent des doutes, mais affreux, sur l'interprétation à donner au panneau. On a l'impression parfois qu'un panneau vous donne le droit de vous stationner là pendant 17 minutes si votre voiture est bleue, que vous êtes balance, qu'elle est manuelle par ailleurs et que vous avez le rhume et que si deux de vos parents se sont fait opérer des hémorroïdes. C'est assez particulier. Ben, sachez que, et ça y est, il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui peut lire le panneau et vous dire si vous avez le droit ou pas de vous stationner, pour combien de temps ça existe, ça se télécharge.
Waouh, moi qui ai mis 3 ans à comprendre, je me précipite vers le téléchargement. Bon, je suis heureux de savoir que la mémoire de Samuel de Champoing, mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles?
Écoutez, vous prenez la tête.
Mais non, mais je vais perdre mon visa de résident si je dis des trucs comme ça à l'antenne. En tout cas, le pont Champlain, et non pas Champoing. Absolument. Merci de m'exorciser. Gardera son nom. Hein? Bon, je vous rappelle qu'il sera ouvert. Cette prophétie, je sais, vous me la rappellerez en temps utile. À la circulation en 2018.
On a beaucoup parlé dans cette émission du musellement des scientifiques par le gouvernement conservateur qui leur coupe leur budget, les empêche de communiquer avec la presse ou avec leurs collègues étrangers. Eh bien, les scientifiques répondent aujourd'hui, les scientifiques du gouvernement fédéral, s'entend, répondent aujourd'hui en négociant leur convention collective puisqu'ils entendent négocier des clauses leur permettant justement de communiquer avec le public, de préserver l'intégrité de leurs résultats et de coopérer avec leurs collaborateurs du monde entier. C'est un dossier à suivre.
Là, je vais vous parler du TechSnex. Vous savez ce que c'est? Non? Vous qui ne téléphonez jamais, évidemment. Eh bien, si vous êtes accro à votre smartphone, eh bien, vous allez avoir une ride au niveau du cou qui s'appelle le TechSnex. Alors, on connaissait les inquiétudes sur les effets néfastes du portable sur le cerveau. Hein. Eh bien, maintenant, c'est sur la nuque que se concentrent des nouvelles inquiétudes. C'est peut-être un bon truc parce que s'il y a quelque chose qui peut empêcher les jeunes femmes de téléphoner dans la rue, c'est peut-être ça. En tout cas, beaucoup plus que les conversations totalement inutiles qui se répandent partout.
Voici un préjugé sexiste, Eric. Je suis sûr. Si on doit avoir des appel de plainte, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Pourquoi les femmes se retiendraient plus de texter que les hommes sous prétexte qu'il y a une ride à venir dans leur cou? Rétrograde.
Une deuxième raison pour laquelle on va me supprimer mon visa.
tiens, pipeline, on n'a pas parlé de pipeline aujourd'hui. Il semblerait que les bélugas, j'allais dire les bélugas ont gagné à Port-Cacouna. En fait, on leur tape plus dessus parce que le boxeur est à terre. Fondamentalement, on a appris la semaine dernière que le béluga du Saint-Laurent est maintenant une espèce en voie de disparition selon les chercheurs fédéraux, ce qui ferait en sorte que de nouvelles normes de protection vont s'appliquer à leur pouponnière. Et je vous rappelle que leur pouponnière est exactement là où on voulait construire un port d'exportation de pétrole à Cacouna. Alors, il se pourrait que ce port, ce projet de port, soit remis au calende grec. Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Ben, en tout cas, c'est dramatique pour le caviar. Écoutez, franchement, s'il n'y a plus de béluga...
Non, le béluga, le caviar vient de l'esturgeon. Le béluga, c'est une petite baleine blanche.
Ah bon?
Non, il faut c'est une, je sais que c'est aussi une catégorie de caviar, mais...
C'est marrant. J'ai cru voir ça en passant sous le pont Shampoing, mais j'ai dû me tromper. Bon, en tout cas, si vous ne prenez pas le pont, vous pouvez toujours prendre le train, parce que le premier départ du train de l'Est a eu lieu cette semaine. Hein, ligne Mascouche, c'est génial. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu quelques problèmes pour cette ligne d'explosion du prix, avec l'augmentation de la valeur foncière des terrains, les délais absolument monumentaux, et puis beaucoup de travail pour Mme Charbonneau là-dessus.
Si on vous taxe votre visa, Eric, je vous invite à vous rétablir à Grenoble. Pourquoi Grenoble? Eh bien, j'ai appris cette semaine que Grenoble va troquer ses panneaux publicitaires contre des arbres. Effectivement, la ville n'a pas renouvelé le contrat pour les différents affichages publics, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir moins de publicité dans les rues de Grenoble et plus d'arbres. Ça m'apparaît une bonne idée. Il faut dire ici que la ville attend moins de profits puisque le coût de la publicité a baissé en raison, évidemment, du déplacement des budgets publicitaires vers Internet. Résultat, c'est moins payant et Grenoble a décidé d'avoir une plus belle ville.
Oui, et je vous rappelle que Grenoble est... Enfin, à la tête de Grenoble, il y a un maire écologiste. Il y en a deux en France, dont Grenoble. Tiens, une petite nouvelle pour votre santé. Santé Canada met en garde contre les trousses d'autodépistage du VIH. Hein. Il semble qu'elles ne sont pas du tout fiables. Donc, ne les utilisez pas. Allez plutôt dans une clinique si vous avez un rendez-vous d'ici 6 ou 8 mois.
La Société de transport de Montréal est très heureuse d'annoncer qu'au coût de jusqu'à 20 millions de dollars, il va y avoir 5 stations de la ligne verte, des stations, pas des tunnels, qui vont être rendues Wi-Fi, donc pour l'usage du public. À terme, ça va coûter 50 millions et éventuellement, ça va couvrir les tunnels aussi. Eh bien, sachez qu'à Moscou, ça y est, tout le métro, c'est un des plus grands métros du monde, le métro de Moscou, tout le métro est maintenant Wi-Fi. Combien ça a coûté tout ça? À rien. Il y a une entreprise qui se finance simplement en mettant de la publicité au moment où les gens se branchent.
Dernier mot pour vous parler d'une application, puisque ça sera la deuxième, qui a été fabriquée par une société québécoise, s'appelle Password Box. C'est génial, moi je l'ai utilisé, ça vous permet d'éviter les hackers, les gens qui pompent vos données quand vous tapez sur le clavier. C'est remarquable d'utilisation, de simplicité et c'est gratuit.
Et finalement, si votre avion sent l'huile, la patate frite, eh bien, ne vous étonnez pas, Boeing a fait voler un avion au diesel vert récemment. Alors voilà, ça pourrait être un nouveau carburant pour avions. Nous vous avons présenté Kiosque Magazine, édition du 4 décembre. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.